en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le lundi 5 décembre 2012, la Fondation Del Duca accueillit un colloque organisé par l'association Être Humain. Une association qui propose de faire intervenir plusieurs personnalités pour livrer leur analyse sur l'homme contemporain. Pour ce colloque, le thème retenu était « Naissance, émergence et manifestation de la conscience ». Dans cette retransmission, Canal Academy vous propose d'écouter le professeur Claude Debru, membre de l'Académie des sciences. Sa conférence est intitulée « Rêve et conscience ». Retrouvez tout de suite Claude Debru sur Canal Academy.
Le thème de cette intervention est plus précisément « La ou les consciences oniriques ». Et pour entrer dans le vif du sujet, qui est aussi difficile que tout sujet qui touche autour de ce damné terme de conscience, et ce qui se complique encore d'ailleurs s'agissant d'une activité aussi difficile à définir que le rêve, eh bien, malgré toute cette difficulté qui s'enchaîne, on reconnaît aujourd'hui qu'il existe deux formes assez typiques de conscience dans le rêve. Je suis en train de parler du rêve humain, bien entendu. Deux formes assez typiques de conscience dans le rêve, selon le degré d'implication de la conscience dite, entre guillemets et avec beaucoup de guillemets, réflexive, dans le rêve. Alors, dans la première variété, le rêveur vit son rêve sans avoir conscience du fait qu'il rêve. Il le vit comme s'il était éveillé. Et si l'on peut dire que le rêve s'accompagne d'un certain sentiment, un feeling de quelque chose, eh bien, le sentiment est bien d'être éveillé. Telle est donc la première variété, la variété la plus commune de rêve. Dans la seconde variété, qui est le rêve dit lucide, le rêveur a conscience du fait qu'il rêve. Et il peut le manifester d'ailleurs à l'extérieur en donnant des signes oculomoteurs. Il a en outre la faculté d'en diriger peu ou prou le cours, comme cela a été reconnu depuis longtemps, en particulier par Hervé de Saint-Denis, qui était d'ailleurs un sinologue, je crois bien, dans son ouvrage « Les rêves et les moyens de les diriger » en 1867. Si bien que donc nous sommes confrontés à deux variétés de rêves, le rêve ordinaire, si je puis dire, qui est caractérisé par la force de son caractère hallucinatoire, et nous aurons besoin de commenter ce terme d'hallucinatoire, et le rêve dit « lucide », où peut s'exercer un certain contrôle du sujet sur sa propre activité onirique, sur sa propre pensée. Deux variétés qu'il convient de comparer à la conscience éveillée. Tel est, à très grands traits, l'état des lieux actuels, tel qu'il s'est dégagé depuis environ 50 ans. Alors, Pierre Buser a mentionné la différence entre état de vigilance et état de conscience. Les états de vigilance, bien entendu, se trouvent dans le règne animal. Les trois grands états de vigilance se trouvent dans le règne animal à partir d'un certain moment, et en particulier avec l'homéothermie qui apparaît chez les oiseaux, où apparaît le sommeil paradoxal qui correspondrait au rêve, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, et nous allons en parler. Alors, lorsque l'on parle de conscience onirique, on va donc en rester à l'homme, il est nécessaire de faire intervenir d'autres caractères des rêves, des caractères qui touchent au type de représentation et de vécu des rêves, et en particulier le caractère narratif du rêve, par exemple. Alors, cela nous permettra d'avoir une vision un petit peu plus précise de ce que l'on entend par rêve, car les frontières de cet état sont assez floues, il faut le reconnaître. Les disciplines qui s'intéressent aux rêves sont nombreuses et finalement assez peu cohérentes entre elles. À mon avis, la plus cohérente, c'est l'électrophysiologie, et c'est sur elle que je terminerai par des résultats récents qui donnent un petit peu corps à cette notion de rêve lucide comme état hybride entre le rêve au sens commun du terme et l'éveil. Alors ceci ouvre certainement des perspectives très intéressantes sur la conscience entre guillemets réflexive, la conscience réflexive in statu nascendi, en quelque sorte, dans le rêve lucide. Alors, je ne peux pas terminer ce propos introductif, bien entendu, sans mentionner le nom de Michel Jouvet, qui a été pendant 50 ans et qui continue d'être le principal architecte, le plus actif des travaux sur le sommeil et le rêve. Et c'est à lui que je vais emprunter éléments de définition préalable des états de conscience oniriques. Avant de le faire, je voudrais tout de même remarquer qu'il est inévitable et peut-être dangereux de décrire ces états de conscience en prenant la conscience vigile comme terme de comparaison et de description. On n'y échappe pas, c'est peut-être malheureux, il y a un manque de terminologie, et je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit à ce sujet, il y a un manque de terminologie appropriée lorsque l'on touche ces questions. Alors, quoi qu'il en soit, nous pouvons distinguer nos deux types de conscience onirique en prenant un exemple particulier, qui est l'exemple du rêve de vol. Je ne sais pas si vous avez eu fréquemment de tels rêves. Pour ma part, j'en ai eu. Ce sont des rêves extrêmement agréables. Le rêveur a l'impression de flotter dans l'air, de naviguer dans l'espace, dans une sorte de lévitation. C'est un sentiment tout à fait agréable. Alors, donc, nous allons considérer nos deux types de conscience onirique à partir de l'exemple du rêve de vol. Type A. Je cite Michel Jouvet dans un article de la Revue de Métaphysique et de Morale en 1992. Type A, j'ai rêvé que je volais. J'étais sûr que je ne rêvais pas, j'étais sûr d'être éveillé et je m'étonnais de ne pas avoir essayé plus tôt de voler tellement c'était facile. Voilà. Donc maintenant, type B, j'ai rêvé que je volais. À ce moment, j'étais sûr de rêver, mais je n'ai pas bougé. J'ai assisté, émerveillé, à mes évolutions en vol, sans prévoir ce qui se passerait. Alors nous avons donc deux récits de rêve, en quelque sorte, enfin, rapport sur des rêves, munis de leurs commentaires. Commentaires sur le rêve de type A. Notre conscience onirique réagit comme si elle était vigile. Nous pensons que nous ne rêvons pas. Il s'agit donc d'une conscience réflexive. C'est là qu'il y aura beaucoup de choses à dire, puisque nous pouvons nous demander si nous rêvons. La conscience onirique ressemble ainsi à celle du sujet éveillé, en proie à des hallucinations. L'imagerie onirique est hallucination est considérée comme la réalité, même si elle est fantastique. La raison, qui est celle de la conscience réflexive, qui intervient au cours de l'éveil, est alors absente. L'illusion de la réalité au cours des rêves a fait l'objet de commentaires nombreux par les philosophes. Fin de citation. Donc, nous devons nous appesantir sur la conscience onirique de type A. Le rêve est perçu comme une sorte d'hallucination. Qu'est-ce à dire ? Alors, évidemment, j'appartiens à une corporation qui aime les dictionnaires dans ce genre de situation, et je suis allé consulter le dictionnaire de Littré. Littré déclare que le terme d'hallucination est un terme de médecine, et il le définit comme perception de sensation sans aucun objet extérieur qui les fasse naître. Puisque le terme d'hallucination est un terme de médecine, je suis allé chercher dans des vieilles choses, et en particulier le dictionnaire de médecine du même Littré et de Charles Robin, qui consacre un long paragraphe à ce terme, l'hallucination. Et il n'est peut-être pas inutile de revenir à cet ouvrage très ancien pour fixer quelques idées. L'hallucination est vue comme un trouble de la partie percevante du cerveau, vraisemblablement corticale, selon une grande majorité d'auteurs cités à l'époque. Alors, ceci ne nous avance pas beaucoup, il faut le reconnaître, mais tout de même, subsiste la question de savoir en quoi la conscience onirique de type A se rapproche ou diffère de l'hallucination vigile. Et la question devient nécessairement celle de la position particulière du sujet dans les deux cas, sujet conscient ou sujet sans lequel il ne saurait bien entendu y avoir quelque représentation que ce soit. Donc, je commence à poser une question, la question de la place du sujet par rapport à son expérience onirique. Alors, j'ai consulté un ouvrage beaucoup plus récent d'un professeur de psychologie de l'Université de Genève, qui n'est pas la même époque, ni la même école, pardon, que l'école lyonnaise de travaux sur le sommeil et le rêve. Il s'appelle Jacques Montangero et il a écrit un livre, intitulé « Rêve et cognition ». Je cite Montangero, « Une caractéristique très frappante des représentations pendant le sommeil est le phénomène d'hallucination auquel elle donne lieu. Toutes les images et les impressions que nous créons pendant le rêve sont vécues comme s'il s'agissait de perceptions. Nous arpentons les lieux du rêve, Les personnages que nous y rencontrons nous paraissent bien réels lorsque nous scrutons leur visage, etc. La crédulité du rêveur face à ces images mentales est sans limite. Il est terrorisé par le danger représenté. Il prend pour réels les êtres, les lieux, les objets ou événements les plus bizarres. Au total, donc, rêver, c'est faire une expérience, puisque nous éprouvons face au contenu du rêve les mêmes impressions que face au déroulement de la vie réelle. On ne peut donc exclure que les épisodes de nos rêves puissent produire sur nous des effets semblables à l'expérience d'épisodes vécus. Fin de citation. Alors, si j'ai bien suivi ce collègue psychologue, le caractère hallucinatoire de l'expérience onirique nous amène assez paradoxalement à conclure que notre attitude par rapport à cette expérience est assimilable à notre attitude par rapport à l'expérience vigile, non hallucinatoire finalement. Donc la question qui se pose est celle de l'attitude par rapport à l'expérience, expérience vigile ou expérience onirique. Il n'y aurait donc pas, si j'ai bien suivi, de différence fondamentale du point de vue du vécu et donc de la position du sujet entre l'expérience onirique et l'expérience vigile, même hallucinatoire. Alors Jouvet, eh bien, il pense de même. Notre conscience onirique réagit comme si elle était vigile. Nous pensons que nous ne rêvons pas. Il s'agit donc d'une conscience réflexive, puisque nous pouvons nous demander si nous rêvons. La conscience onirique, je l'ai déjà dit, ressemble donc à celle du sujet éveillé en proie à des hallucinations. Disons qu'elle est face à une étrangeté similaire, à la fois spectateur, nous sommes à la fois spectateur et acteur impliqué émotionnellement. Alors ce qui pourtant peut poser problème, me semble-t-il, c'est le statut de ce sujet qui pense son rapport à son expérience vécue, le degré de « réflexivité » entre guillemets que cela implique dans le rêve. La certitude du rêveur d'être éveillé constitue, si je puis dire, la qualité ou la modalité du rêve. La question de savoir si cette qualité implique un retour réflexif, un second degré, reste posée, et les différents degrés de ce retour réflexif restent posés. Ce retour réflexif, toujours possible, semble-t-il, devrait alors avoir lieu, peut-être, à des moments déterminés de la narration onirique, plutôt que d'être dans un accompagnement continu. C'est du moins la question que l'on peut se poser face à ces réflexions des uns et des autres. Il pourrait y avoir des fluctuations de conscience, et d'ailleurs, ce genre d'hypothèse a été évoqué par tel ou tel auteur, je pense à William Dement, dont je parlerai, y compris d'ailleurs pour l'éveil. Alors, aujourd'hui, on parlerait plutôt, me semble-t-il, et on précisera la terminologie ultérieurement, d'un certain niveau méta, à savoir le sentiment d'être certain d'être éveillé, plutôt que de conscience réflexive, conscience de soi, expressément conjointe à un contenu de pensée, je pense que je suis éveillé. Il y a peut-être une légère subtilité dans cette affaire-là. Alors, la question qui est à mon sens assez épineuse, c'est celle de la modalité ou des modalités de conscience dans le rêve de type A, de type purement et simplement hallucinatoire. Cette question est donc posée. Admettons en tout cas que dans le rêve de type A, je suis certain d'être éveillé. Une symétrie apparaît tout à fait naturellement par rapport au rêve de type B, dans lequel je suis certain de rêver. Dans les deux cas, je suis porteur d'une certaine attitude par rapport à l'expérience vécue, mais cette attitude diffère dans son contenu, type d'attitude. Donc, venons-en au rêve de type B, je suis certain de rêver, qui sont appelés rêves lucides. Eh bien, certains rêves lucides sont célèbres par leurs implications philosophiques, voire métaphysiques. Michel Jouvet, dans le texte de la revue de métaphysique et de morale auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, remarque que le troisième rêve de Descartes, au cours de la fameuse nuit du 10 novembre 1619, était un rêve lucide. Et voici ce qu'écrit Descartes, qui commente ce rêve à la troisième personne. C'est très remarquable, et ça se passe absolument de tout commentaire. Je cite « Ce qu'il y a de singulier à remarquer, c'est que, doutant si ce qu'il venait de voir était songe ou vision, non seulement il décida en dormant que c'était un songe, mais il en fit encore l'interprétation avant que le sommeil le quittât. » Fin de citation, ce qui prouve la capacité cognitive de ce philosophe que nous admirons tous. Voilà donc le rêve lucide et ses conséquences philosophiques et métaphysiques. En tout cas, les propriétés particulières du rêve de type B sont bien établies dans la littérature, à savoir qu'il s'agit plutôt d'épisodes de lucidité au cours du rêve, plutôt que d'un accompagnement continu. Le rêveur doit effectivement, dort effectivement, c'est attesté par les enregistrements bien entendu, il dort effectivement tout en étant conscient de rêver. Il peut être entraîné à donner un signal par les mouvements oculaires au moment où il entre dans cet état et les enregistrements à ce moment-là confirment l'état de sommeil. Et si l'on réveille le sujet à ce moment, le sujet confirme l'épisode de lucidité. On analyse aujourd'hui ces épisodes en termes de possibilité de réflexion sur soi-même, auto-réflexivité, ce qui est un petit peu différent de la réflexion sur ses propres connaissances, métacognition, et en termes de capacité de contrôle de sa propre activité onirique. Alors cette fameuse lucidité dont on a beaucoup parlé n'est pas très fréquente, elle peut s'exercer, et le fait est que plus on porte attention à ses rêves, plus la lucidité apparaît fréquemment, plus elle augmente, et plus la capacité de contrôler ou d'orienter le cours, le contenu du rêve, augmente. Il semble par ailleurs exister une échelle de lucidité. On observe en fait toute une gamme de degrés de libération par rapport à l'hallucination et par rapport à la passivité que nous avons face à nos représentations oniriques. Alors, parmi ces degrés de lucidité, on peut en citer un certain nombre. Tout d'abord, le rêveur fait, à l'intérieur de son rêve, des commentaires sur ce qu'il perçoit. À un niveau un peu plus élevé, le rêveur peut modifier le cours du rêve, c'est-à-dire il va prendre une décision en rêve, sans prendre conscience du fait qu'il est en train de rêver, ce n'est pas encore tout à fait la lucidité, sans lucidité proprement dite, ou lucidité, dirais-je, maximale. Et niveau supérieur, la lucidité maximale est caractérisée par le fait que le rêveur peut manipuler intentionnellement le cours du rêve. Le rêveur sait qu'il rêve, réflexivité, et a en outre une certaine capacité de réfléchir sur les contenus et de les orienter. Tels sont donc les différents degrés d'établissement de ce phénomène de lucidité. En tout cas, pendant les épisodes de lucidité, il y aurait, et je suis ici un collègue psychologue de Genève, une double conscience pendant ces épisodes de lucidité. Le premier système de prise de conscience porte sur les contenus. Il les appréhende d'une manière non critique, comme des réalités. Donc c'est le côté hallucinatoire, c'est l'aspect hallucinatoire qui, si j'ai bien compris, subsiste comme une sorte de niveau fondamental. Et là-dessus vient se greffer le dixième système de conscience, qui est semblable à la conscience réflexive vigile, laquelle conscience n'a pas perdu le sens de la réalité, bien entendu, et peut exercer un jugement, une réflexion sur les contenus et une capacité d'orienter ces contenus. Alors, comment ces deux niveaux ou formes se greffent-ils l'un sur l'autre, à moins qu'ils ne se succèdent, après tout, l'un à l'autre, ce qui serait peut-être assez satisfaisant, cela reste à voir, me semble-t-il. Cela étant dit, d'autres caractéristiques que les modalités conscientielles peuvent être mentionnées pour les rêves. Et je voudrais d'abord les énumérer et ensuite m'appesantir sur l'une d'entre elles. Les énumérer. Modalités sensorielles impliquées, vision et autres modalités sensorielles. L'aspect narratif en second lieu. Les types de contenus les plus fréquents, leur originalité ou leur non-familiarité. Autre caractéristique, la bizarrerie. Enfin, le caractère émotionnel. Donc, il y a toute une gamme de critères qui peuvent être appliqués à la description des rêves. Je souhaite développer quelque peu l'aspect narratif. Parce que l'aspect narratif, il est si frappant dans le rêve et il a fait l'objet de très nombreuses études à partir des récits de rêves que l'on obtient en réveillant le dormeur dans les phases de sommeil, qu'il soit d'ailleurs sommeil lent ou sommeil paradoxal. Alors, il apparaît assez généralement que le rêve n'est pas une narration continue, qu'il est un assemblage d'épisodes dont le lien interne n'est pas très apparent, ce qui témoigne du fait que la pensée dans le rêve est assez décousue, que la séquence des contenus n'est pas réellement contrôlée, qu'il n'y a pas la plupart du temps de cohérence d'ensemble qui relierait des épisodes éloignés les uns des autres dans le cours de la narration. Donc, le rêve ne constitue pas le déroulement d'une pensée préexistante. Il ne s'agit pas, comme dans l'exemple célèbre pris par M. William James dans son chapitre sur le courant de conscience, le paquet de cartes est sur la table, où l'idée entière du paquet de cartes qui est sur la table préexiste à son élocution, si je puis dire. Non, dans le cas du rêve, rien de tout cela. Le rêve ne constitue pas le déroulement d'une pensée préexistante. Il a un aspect essentiellement changeant. Alors, il y a là une réflexion très intéressante sur l'aspect très changeant du rêve qui est proposée par notre collègue Montangero, qui souligne que, fondamentalement, nous aimons le changement. Nous aimons le changement, c'est le changement qui suscite l'intérêt. Cela se voit aussi bien chez le nourrisson que dans le rêve. Si bien qu'il y a dans le rêve cette espèce de changement permanent, qu'il y a un mélange de plausibilité dans la constitution de narrative et d'imprévisibilité, ce qui découle assez clairement de l'analyse des contenus des rêves. Si bien que le rêve, eh bien, il le voit comme une sorte de création. Alors, création, c'est évidemment un terme qui suscite l'intérêt, et ce terme n'est pas sans me rappeler Édouard Claparède, un psychologue, lui aussi genevois d'ailleurs, qui écrit en 1905 que le rêve serait un exercice de création, c'est-à-dire une mise en jeu de fonctions utiles, comme l'imagination créatrice, mise en jeu dont la fonction serait analogue à la fonction biologique, aux yeux de Claparède, du jeu, une sorte d'activation, rénovation, conservation. Le rêve serait une création qui aurait pour fonction une activation, une rénovation, une conservation de certaines facultés. Eh bien, de même, aujourd'hui, le rêve apparaît comme une construction, une création, marquée par une sorte de plausibilité dans l'enchaînement narratif, plausibilité et aussi, comme je l'ai dit, imprévisibilité, car il n'y a guère de logique et certainement aucune nécessité dans l'enchaînement narratif. Alors, ces considérations nous introduisent à un problème âprement disputé, celui de la temporalité du rêve en rapport à la temporalité des événements physiologiques tels qu'on peut les observer, du moins actuellement, avec les moyens disponibles. Pour schématiser, deux grands états de sommeil sont reconnus depuis 50 ans ou 60 ans, le sommeil à ondes lentes, et le sommeil paradoxal, ou sommeil à mouvements oculaires rapides, qui est caractérisé par une activité corticale rapide, à la différence du sommeil à ondes lentes, et aussi par une atonie des muscles squelettiques, atonie complète ou quasi-complète, à l'exception des mouvements oculaires, bien entendu. Alors, dès le début de ces études, dès la reconnaissance du sommeil à mouvements oculaires rapides en 1953 par Eugène Ossirinski, qui travaillait dans le laboratoire de Nathaniel Kleitman à Chicago, donc dès le début de ces études, la question s'est posée de savoir si ces deux états de sommeil, si différents l'un de l'autre, se traduisaient par des activités psychiques, elles aussi différentes. Eh bien, une quantité considérable d'études a été consacrée à ce sujet, avec une réponse à peu près claire. Finalement, au bout du compte, une réponse à peu près claire, un peu désenchantée d'ailleurs et un peu sceptique. La réponse semble être négative, car des récits de rêve, à peu près semblables à ceux obtenus en sommeil paradoxal, sont obtenus en sommeil lent, à la différence près qu'ils seraient plus courts et qu'ils seraient moins riches en contenu. Alors ceci est tout à fait désespérant. Désespérant pour les philosophes, et pas seulement les philosophes, qui s'accrochent à la bonne vieille théorie du parallélisme psychophysiologique, selon laquelle des états ou événements mentaux particuliers correspondent à des états ou événements physiologiques particuliers. Eh bien, on est obligé de constater que dans bien des cas, la psychologie et la physiologie restent séparées, mais comme nous le verrons in fine, il y a des cas nombreux où elles sont traduisibles l'une dans l'autre et où des correspondances étroites sont établies, et ces cas sont extrêmement nombreux et de plus en plus nombreux. Mais dans le cas du rêve, de Rechef, ce cas du rêve semble poser un problème particulier de non-corrélation ou de corrélation faible entre état psychique et état physiologique. Il faut le reconnaître, même si c'est philosophiquement parlant assez difficile, et le cas du rêve reste très, très, très énigmatique. Très énigmatique, je le répète, et il est d'autant plus énigmatique que cela est en fort contraste, dirais-je, par rapport à l'énorme masse de données recueillies par la neuropsychologie et l'imagerie cérébrale ces dernières années, qui vont, elles, dans le sens de corrélations étroites. Voilà où nous en sommes. L'un des aspects de ce problème touche la temporalité. Et les choses deviennent encore plus complexes. Question de temporalité. Y a-t-il une corrélation entre, premièrement, le temps vécu du rêve, et d'ailleurs, comment l'estimer? Deuxièmement, le temps de la narration, projeté en temps réel, si je puis dire. Et troisièmement, le temps physiologique observable. Eh bien, William Dement, collègue de Michel Jouvet, bien connu, psychophysiologiste américain, qui est le plus connu dans ce domaine, et qui est un tenant assez ferme du parallélisme psychophysiologique. Je me souviens d'avoir interviewé le professeur Dement en 1985 ou 86 pour lui poser précisément cette question, et la réponse était claire, le parallélisme psychophysiologique est plus utile que jamais. Voilà, c'est une position. Eh bien, William Dement concluait, il y a déjà longtemps, que nous rêvons en temps réel. Nous rêvons en temps réel. Eh bien, cette proposition doit être, semble-t-il, nuancée. Il convient de la nuancer. Pourquoi ? Un rêve d'égale durée peut contenir plus ou moins d'événements selon le moment de la nuit où il apparaît. C'est déjà un fait. Autre chose est l'appréciation subjective de la durée par le rêveur. La durée ressentie par le rêveur peut excéder largement la durée du rêve telle qu'on peut l'objectiver. D'où une conclusion intéressante, qui est celle de Montangero. Nous pouvons, entre guillemets, simuler l'impression de durée du rêve, à savoir que le rêveur peut, dans son rêve, faire comme si la durée ressentie était beaucoup plus grande que la durée de l'enregistrement. Donc, il est assez clair qu'il y a une distorsion plus grande que ne le pensait Dement entre la temporalité vécue et la temporalité, si l'on peut dire, objectivable. Et ceci pose la question non résolue du statut du sujet par rapport à son rêve de Rechef. C'est la question qui me semble la question philosophique la plus critique dans toute cette affaire, et je ne vois pas qu'elle soit résolue. En tout cas, il me semble que cette théorie psychologique de simulation mérite plus ample réflexion. Alors, pour terminer sur une note plus encourageante, je voudrais mentionner des études assez récentes d'électroencéphalographie sur le rêve lucide. En effet, il paraît assez évident, et c'est l'idée que beaucoup de personnes ont depuis un certain temps déjà, que le rêve lucide peut fournir une clé d'accès aux phénomènes conscientiels et à leur déterminisme, en particulier en ce qui concerne notre fameuse conscience réflexive. Alors, parmi les chercheurs qui ont consacré leur vie à ces questions-là figure un chercheur de la Harvard Medical School qui s'appelle Alan Hobson, qui est depuis longtemps, depuis les années 60, un des chercheurs actifs du domaine. Et ce médecin de la Harvard Medical School a pu collaborer avec des chercheurs allemands, des chercheuses allemandes, pour effectuer des enregistrements EEG multicanaux. Ce n'est pas si simple. On a parlé de la difficulté d'introduire des sujets dans des appareils d'IRM. Je dois dire que Mettre un rêveur lucide dans un appareil d'IRM, ça n'est pas quelque chose d'évident. En tout cas, pour l'électroencéphalographie multicanaux, ça a été fait. 6 étudiants ont été enregistrés jusqu'à 5 nuits et ils étaient préalablement entraînés au rêve lucide. Le but de cette étude était de rechercher des corrélats électrophysiologiques du rêve lucide en vue de montrer que le cerveau change d'état si l'esprit change d'état. Le cerveau change d'état si l'esprit change d'état. On peut admirer la prudence de cette formulation, qui n'est pas du tout la même que la formulation inverse selon laquelle l'esprit change d'état si le cerveau change d'état. Il y a deux positions tout de même un petit peu différentes. En tout cas, le rêve lucide, dans cette étude, il est préalablement défini, il est défini comme l'expérience qui consiste à avoir une connaissance consciente, c'est difficile à traduire, conscious awareness, toujours ce terme de awareness tellement difficile à traduire, donc une connaissance consciente du fait de rêver alors qu'on est endormi. Par opposition, le rêve non lucide est celui dans lequel le rêveur pense d'une manière erronée qu'il est éveillé alors qu'il est endormi. Donc deux qualités de conscience, nous l'avons vu, fort différentes. Et la question de la pensée corrélative ou du vécu corrélatif de la lucidité et de la non-lucidité du point de vue de la réflexivité, finalement c'est ça la question, du point de vue de la réflexivité, reste à mon sens posée. En tout état de cause, bon, l'affaire techniquement est extrêmement compliquée, je n'ai pas la prétention de pouvoir en commenter tous les détails, mais j'ai l'article pour ceux que cela intéresse. En tout état de cause, la conclusion, malgré tout assez instructive, va dans le sens suivant, à savoir que ce fameux rêve lucide est un état hybride. Ça n'est pas un état intermédiaire, c'est ça le point. C'est un état hybride entre l'éveil et le rêve non lucide, en particulier un état hybride lorsqu'on analyse les fréquences et les localisations de l'activité. État hybride et donc non pas intermédiaire. État où l'on observe des caractéristiques d'éveil et des caractéristiques de rêve non lucide, de rêve REM ou de rêve paradoxal. En particulier, du côté des différences par rapport au rêve REM normal, le rêve lucide se caractérise par une plus grande activité de type 40 Hz ou le rêve non lucide par rapport au rêve non lucide. Et il se caractérise aussi par une plus grande cohérence de l'EEG et une plus grande mise en réseau de l'activité. Alors 40 Hz, j'en profite pour rendre hommage aux promoteurs du 40 Hz et en particulier à Madame Buzer. Pierre, je suis en train de parler d'Arlette. Bon, voilà. Donc l'activité 40 Hz jouerait un rôle dans la modulation de la conscious awareness entre différents états de conscience. Un rôle intégrateur de ce type qui a d'ailleurs souvent été déjà évoqué et je pense qu'il est nécessaire de le mentionner. Alors, la différence entre rêve lucide et rêve non lucide et l'identité ou les similitudes entre les deux, il y a tout de même un fond commun pour les rythmes plus lents. Les rythmes plus lents semblent identiques. Donc, l'hypothèse est que le rêve lucide correspond à un déplacement de l'activité cérébrale en direction de l'activité typique de l'éveil, et que par conséquent, le rêve lucide est particulièrement important pour les études sur la conscience, point de vue que l'on ne peut que partager et à faire à suivre, je crois. Alors, Robson déclare que les fluctuations d'état de l'esprit-cerveau sont permanentes. On peut le suivre, d'ailleurs, William James ne l'aurait pas démenti, et à Boston, on connaît bien William James. En tout cas, Hobson a élaboré un modèle à paramètres multiples, je passe, qui est décrit dans un espace d'état où se trouve un plus grand nombre de régions que les états classiquement définis de vigilance, à savoir éveil, sommeil lent et sommeil paradoxal, dans le rêve lucide. Et il existe donc vraisemblablement toutes sortes de gradations entre les états classiquement définis, d'abord au niveau de la vigilance. Affaire à suivre donc, avec un problème philosophique irritant, insistant, toujours présent un petit peu en arrière dans les écrits de psychologues, à savoir la place du sujet dans le rêve par rapport au contenu du rêve où le sujet se trouve lui-même. Voilà, j'ai été un petit peu bref, je m'en excuse. Merci beaucoup de votre attention.
Merci.
Canal Académie vous propose la retransmission de la conférence du professeur Claude Debru, membre de l'Académie des sciences. Cette conférence intervenait dans le cadre du colloque organisé par l'association Être Humain le 5 décembre 2012 à la Fondation Del Duca. Canal Académie vous propose d'écouter les autres conférences tenues lors de cette journée. Pour ce faire, rendez-vous sur le site canalacademie.com et entrez le mot « conscience » dans la barre de recherche. À bientôt sur Canal Académie pour d'autres retransmissions.